Mes chers amis, décidément la science moderne me poursuit. Je voudrais maintenant vous parler du corps mystique du Christ, que je transforme en corps cosmos mystique du Christ. Corps cosmos mystique du Christ? Pourquoi? N'oublions jamais les paroles de Jésus, sa parole qui, petit rappel, est la parole du Père. Jésus a dit un jour à ses apôtres, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Je vais vous préparer une place. » Ceci, c'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 2. Il y a peu de temps, je vous ai parlé des exoplanètes. C'était le numéro 22, je crois. Je vous ai montré comment elles permettront à tous les hommes de trouver une place pour vivre après leur résurrection. À condition, bien sûr, que nous occupions les places que Jésus nous a préparées. Mais je n'insiste pas. Par contre, d'une manière générale, lorsque nous parlons du corps du Christ, nous pensons surtout à l'Église. Alors que se passera-t-il lorsque, après le jugement dernier, tous les hommes ressusciteront? Formeront-ils une nouvelle Église, résurrection de notre actuelle Église, très liée à la communion des saints sur la terre? Pour être sûr que ces paroles allaient être comprises, Jésus utilisait souvent des paraboles. Ne pourrions-nous pas, nous aussi, utiliser certaines découvertes de la science moderne pour imaginer le corps du Christ après notre résurrection? Partons des exoplanètes. Ces exoplanètes, un peu à l'image de notre Terre, sont forcément placées dans un très vaste cosmos que nous commençons seulement à découvrir. Ce cosmos ne serait-il pas le futur corps du Christ, accueillant tous les hommes reçus dans la vie éternelle? Dieu, notre Créateur et Père, porte en lui toute sa création. En fait, ce ou ces cosmos que les hommes découvrent peu à peu. Dieu, dans sa grande main, porte toute sa création et contemple son œuvre. Et quelque part, dans cette œuvre gigantesque, nous devinons un cosmos particulièrement aimé, car à la fois matériel et spirituel. Le corps mystique du Fils unique du Père, son Verbe. Et les hommes seront là, chacun à la place préparée pour lui. Je suis émerveillée, je reste sans voix, j'adore notre Créateur. Vraiment, notre monde, dans son immensité, dans son infiniment grand et encore plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer, notre monde que la science découvre nous place vraiment en Dieu, dans son cœur, dans sa vie, dans son Fils bien-aimé, sa parole et dans son amour. Là, mon imagination s'arrête. Mon imagination dans l'infiniment grand s'arrête et se tourne soudain vers l'infiniment petit qui est, malgré les apparences, un autre infiniment grand que Dieu, contrairement à nous, connaît parfaitement. Nous, pauvres hommes, qui ne comprenons pas, nous commençons à nous poser des questions bizarres. Et parmi ces questions, il en est une qui peut nous troubler beaucoup. En effet, Dieu, notre Créateur, notre Père, est amour. Or, qui dit amour, dit connaissance intime, compréhension, écoute et réponse. Comment alors Dieu infini et connaissant chaque rouage de sa création, comment Dieu peut-il aimer et écouter les plaintes, les demandes, les cris de chacune de ces milliards de créatures humaines et comment peut-il répondre personnellement à chacune d'elles? Si l'on considère ce que chaque personne humaine peut faire lorsqu'elle est pleine d'amour et de charité, alors on s'aperçoit qu'il est impossible de connaître personnellement plus de quelques individus très proches. Et si l'on compte la famille et les amis chers, on constate vite que leur nombre est très limité. Alors comment Dieu peut-il connaître individuellement chaque homme en particulier? Certes, il est Dieu, mais tout de même, comment peut-il savoir ce qui se passe dans le cœur de chaque homme choisi parmi les milliards d'hommes qui existent? Et comment peut-il répondre à tout le monde et au meilleur moment? Ne sommes-nous pas ici dans une immense utopie? Encore une fois, la science moderne vient à notre secours. Les savants de la physique quantique se posent de plus en plus de questions, et on les comprend. Mais aujourd'hui, leurs questions sont devenues non seulement étranges, mais très dérangeantes. Ainsi, après avoir lancé l'hypothèse que probablement tout l'univers ne serait constitué que d'ondes, nos savants se posent une nouvelle question. Est-ce que quelque chose existe avant d'avoir été vu ? Question particulièrement complexe dont Internet et nos ordinateurs vont nous donner la réponse. Internet n'est qu'un outil. Mais cet outil peut-il nous faire connaître Dieu, encore mieux que tout ce que nous savons déjà, car révélé par lui ? Le téléphone sans fil apportait déjà un début de réponse, mais très insuffisante. Avec Internet, nous avons la réponse. Réfléchissons. Aujourd'hui, nous recevons tous plusieurs dizaines, voire des centaines de messages chaque jour. Et, sauf pour les messages qui concernent la publicité, nous répondons à tous individuellement. Alors, Dieu est-il comme un immense ordinateur ? La mémoire de nos ordinateurs est gigantesque. La mémoire de Dieu est infinie. Quand je veux transmettre un message, je l'envoie via Internet ou via un téléphone mobile. Et mon message arrive presque instantanément. Si je veux une réponse, je l'ai tout de suite, à condition que mon correspondant soit disponible. Mais Dieu est toujours disponible. Parfois nous nous fâchons, parce que la réponse de Dieu se fait attendre. Non, il n'y a pas de panne, mais Dieu qui nous aime et nous connaît, sait qu'il doit nous former, nous éduquer. Il sait aussi que parfois, il est nécessaire que nous devions attendre. Je suis émerveillée, je ne sais plus quoi dire. Je comprends maintenant que Dieu nous connaît tous, au plus intime de notre identité. Dieu entend tous nos messages et il n'est jamais encombré, car sa puissance est infinie. S'il doit nous faire attendre, il met nos questions en réserve dans sa mémoire infiniment fidèle, et il ne nous répondra que lorsque cela nous sera utile. Je ne me sens pas très bien d'avoir comparé Dieu, notre Père, à un ordinateur et à Internet. Pourtant, Dieu est amour, et chaque homme est son préféré qu'il désire heureux. Et celui qui aime vit en permanence avec l'être aimé, au moins dans sa pensée. Et pour Dieu, chaque homme est en permanence présent dans son cœur, donc dans son ordinateur. Tout s'éclaire, et je comprends enfin que vraiment Dieu sait tout, absolument tout. Et nous les hommes, avec nos très élémentaires moyens, nous essayons tout simplement d'imiter Dieu. Vraiment, Dieu nous étonnera toujours. Mais voici qui m'étonne encore plus. Il s'agit d'un message du cœur d'accueil de Jésus. Certes, ces messages ne sont pas encore officiellement reconnus par l'Église. Mais ce qui suit est tellement intéressant et d'une telle actualité que je vous le partage. Aujourd'hui, votre Père du Ciel vous fait le don du cœur d'accueil de son Fils pour vous enseigner et vous faire apprécier et respecter la vie. Car même un brin d'herbe a de l'importance. Il sert à quelque chose ce brin d'herbe, mes enfants. Tous les arbres purifient votre air. Ils sont essentiels à votre vie. Tous les animaux ont été créés pour votre survie. Eux aussi sont des créatures de votre Père du Ciel. Vous ne respectez plus la vie, mes enfants, et vous aurez à en souffrir énormément. Tout ce que votre Père du Ciel a créé, il l'a créé dans l'harmonie et dans la paix. Et vous, que faites-vous, mes enfants? Vous empoisonnez tous les cours d'eau par vos produits chimiques. Vous abattez les arbres. Comprenez, mes enfants, que sans ces arbres, vous ne pourrez plus respirer. Ils sont les poumons de votre planète, de votre terre. Tout cela, vous le faites au nom de l'argent. Vous êtes devenus des consommateurs compulsifs. Vous n'avez pas besoin d'autant de matériel pour vivre. La terre est polluée, qu'allez-vous faire? Vos sols sont de plus en plus appauvris. Vous avez perdu le vrai sens de la réalité de la vie. Ceci est extrait d'un message reçu par Micheline Boisvert en septembre 1999. Nous sommes tous sidérés. Notre Père du Ciel serait-il aussi un brin écologiste? Encore une fois, nous revenons à la loi de Dieu, mode d'emploi de la vie. Mais n'y a-t-il pas là aussi de nouveaux sujets à approfondir? Dieu, son écologie et la morale. Ou encore, l'écologie est-elle la manifestation de la volonté de Dieu, donc de la morale ?